Super, on vient de gagner un nouveau contrat. Va falloir s'équiper de nouveaux ordi.
Direction Dell.fr. Tiens, regarde, 50% sur l'achat d'un deuxième ordinateur pro.
Génial.
Et pendant le mois de juin, Dell.fr t'offre la livraison.
Top Dell.fr. Au fait, j'y pense, ma fille cherche un PC tactile.
L'XPS 12, PC et tablette.
Et pour mon père, il propose quoi ton Dell.fr?
Jusqu'à 100 euros de réduction sur une sélection de PC. T'en prendras aussi un portable mère?
Ou pas.
Voir modalité sur Dell.fr.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Il y a eu 250 ans dimanche, naissait à la Martinique une certaine Rose Tachée de la Pagerie qui allait devenir la vicomtesse Joséphine de Beauharnais, puis la citoyenne Bonaparte, un jour impératrice des Français. Et Franck Ferrand tenait à lui souhaiter un bon anniversaire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. S'il fallait choisir un mot pour définir l'impératrice Joséphine, je la dirais d'abord et avant tout charmante. Charmante par son physique de créole, épanouie naturellement, mais aussi charmante par l'esprit, la conversation, le comportement, les manières, la grâce. On lui trouverait facilement des défauts, et durant ces 2 siècles et demi, croyez-moi, certains ne s'en sont pas privés. Mais ce qu'il y a de singulier avec elle et d'émouvant, c'est que même ses défauts sont charmants. J'ai eu l'impression de croiser son fantôme l'année dernière en visitant la petite Malmaison, vous savez, où cette passionnée de botanique s'était fait bâtir un pavillon au milieu d'une immense serre tropicale, et je me disais que j'aurais beaucoup aimé la rencontrer. C'est un petit hommage de début d'émission que nous rendons aujourd'hui à cette grande dame si attachante, mais je pense que chacun aura compris qu'il s'agit d'un hommage sincère.
Alors, bon anniversaire, madame. Ai-je été assez poli?
Mais vous êtes la politesse même. Or, à mon avis, cette politesse dont nous allons parler aujourd'hui et qu'a si bien incarné Joséphine en son temps, est sans doute un des plus sûrs agréments de l'existence. Mais je ne voudrais pas que vous-même, Julia, vous me preniez pour un mufle. L'anniversaire de l'impératrice ne me fait pas oublier le vôtre. Alors, très bon anniversaire de la part de toute l'équipe.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Madame de Genlis était à la fin du XVIIIe siècle la maîtresse du duc d'Orléans et la gouvernante de ses enfants, le futur roi Louis-Philippe et sa sœur Adélaïde. Sous l'Empire, lorsque Napoléon tentait de renouer avec les traditions, elle a fait partie de ces quelques grandes dames qui ont su tirer avantage d'avoir autrefois fréquenté la vieille cour de Versailles, ce qui, dans une époque où l'on essayait d'oublier la Révolution, leur donnait un grand prestige. Si bien que peu à peu et presque malgré elle, Madame de Genlis est devenue un véritable oracle des bonnes manières, et quand on lui demandait si les courtisans de l'Ancien Régime avaient été aussi polis que le voulait la légende, elle répondait par cette anecdote. Je cite Madame de Genlis. « Madame de Rouget, une veille de Longchamp, Longchamp à l'époque c'était les grandes revues militaires, Madame de Rouget, une veille de Longchamp, fit demander une calèche à Monsieur de Valence, sachant qu'il en avait deux. Il se trouve qu'il avait disposé de l'une et de l'autre, mais sur le champ, il en fit acheter une très belle, uniquement pour la prêter 3 heures à Madame de Rouget. » Nous sommes là évidemment dans des sommets de raffinement qui donnent presque le vertige, et le fait est que depuis lors, ces beaux usages se sont un peu érodés génération après génération. Voyez par exemple les codes vestimentaires. Nous autres gentilshommes en puissance, nous avons abandonné d'abord la poudre, puis la perruque, puis le jabot, puis la culotte à la française au profit des pantalons, puis les escarpins pour chausser des souliers, puis le gilet, puis l'habit, puis le smoking lui-même, car chaque année qui passe voit s'amenuiser le nombre de soirées où la cravate noire, selon la formule consacrée, est requise. Mes remarques doivent vous paraître futiles et peut-être font-elles sourire certains, que voulez-vous, il doit y avoir une baronne staff qui sommeille quelque part en moi. Cela dit, sourirez-vous autant lorsque, délaissant le sujet de la tenue mondaine, j'en viendrai à celui nettement plus crucial, du comportement. Soudain, il ne s'agit plus de futilité, mais d'hygiène de vie. Il est question bel et bien du long et vieux combat de la civilisation contre la barbarie. Un grand professeur allemand de sociologie, mort presque centenaire il y a déjà près d'un quart de siècle, avait passé sa vie à étudier ce qu'il appelait le procès, nous dirions le processus de civilisation. Il s'appelait Norbert Elias. Selon lui, la politesse et ses règles sans cesse plus précises, plus codifiées, étaient au cœur d'un long cheminement des humains vers une maîtrise de la violence par le concours de chaque personne au maintien d'un ordre social, la civilité. En vérité, si la recherche de civilité est universelle, les règles de la politesse, elles, sont très relatives. Nous allons nous en rendre compte dans cette émission. Elles varient dans l'espace et dans le temps. Ainsi, aller saluer le maître ou la maîtresse de maison avant de quitter sa demeure était jadis considéré comme une grossièreté par Madame de Genlis, justement. Alors qu'aujourd'hui, c'est filé à l'anglaise qui, sauf cas particulier, serait plutôt regardé comme une marque d'impolitesse. On sait qu'en France, à table, les mains doivent être visibles de part et d'autre de l'assiette, alors qu'en Angleterre, elles doivent disparaître sous la nappe. Tout cela change, évolue, selon un étrange mouvement de flux et de reflux. Dans un livre très salutaire, Cécile Ernst, qui a payé pour mesurer le prix des bonnes manières, elle va nous expliquer cela, différencie trois notions bien distinctes. Au sommet, pour ce qu'on appelait, ou ce qu'on appelle peut-être encore, la bonne société, le savoir-vivre, qui est un ensemble d'usages particuliers pratiqués avec plus ou moins d'aisance et qui est destiné à manifester un certain statut social. Savoir comment présenter un nouveau venu, comment placer les gens à table, quel type de cravate porter à quel moment de la journée, tout ça relève du savoir-vivre. Un cran au-dessous, beaucoup plus répandu à travers l'ensemble du corps social, la politesse, dont le but est de rendre la vie plus agréable et plus cordiale. C'est en quelque sorte l'huile qui vient lubrifier les rouages sociaux. Se lever quand il faut, envoyer un message de remerciement, saluer ou ne pas saluer selon les circonstances, tout ça relève de la politesse. Enfin, et cette fois c'est une notion qui est censée concerner tout le monde, la civilité qui regroupe un certain nombre de règles élémentaires permettant de rendre supportable la vie en groupe, tenir une porte, mettre la main devant sa bouche quand on baille, que sais-je encore. Depuis quelque temps, je ne suis pas sûr de pouvoir dater ça très précisément, le savoir-vivre est assez dévalorisé, même chez les gens raffinés, il est de bon ton, du moins officiellement, de s'en moquer. La politesse elle-même est en recul, à moins qu'on ne prenne tout simplement d'autres formes, à travers les emails par exemple ou les SMS. Enfin, et c'est ce qu'il y a de grave, nous dit Cécile Ernst, pour une partie de la population, notamment, mais pas seulement chez les plus jeunes, la civilité elle-même est en train de se perdre et l'on voit se multiplier par tous des actes d'incivilité qui font froid dans le dos, car ils semblent vouloir ramener la société à un état de barbarie. Vous montez dans le métro et vous êtes gêné par quelqu'un qui écoute de la musique sans se soucier des autres, par exemple, comme s'il était chez lui. C'est à ce moment-là que vous vous dites que la bonne Madame de Genlis est loin, bien loin, si loin, et que vous vous sentez nostalgique. Alors, vous pourrez avoir recours, si c'est le cas, au passionnant ouvrage de Frédéric Rouvillois, ça s'appelle « Histoire de la politesse » de 1789 à nos jours. Vous y trouverez toutes sortes de détails devenus pour nous plus ou moins exotiques. Par exemple, ce qu'il dit de l'usage des cartes de visite cornées dans un coin. Vous savez, on faisait ça autrefois. Il paraît, nous dit Frédéric Rouvillois, il paraît désormais passablement obscur cet usage. Comment faire? Faut-il corner le haut ou le bas, à droite ou à gauche, vers l'intérieur ou l'extérieur? Et pourquoi faire? Certains esprits chagrins assurent qu'il s'agit seulement d'éviter que la carte ainsi déposée soit utilisée après coup, à l'insu ou au détriment de son propriétaire. D'autres jugent ce type d'explication radicalement étranger à l'esprit de la politesse classique. La vérité, corrige Lindon, est sans doute que cet usage est la dernière survivance d'un temps où un code ésotérique donnait une signification particulière aux diverses formes et places de la corne. Le lecteur n'en est pas beaucoup plus avancé, mais il devine du moins l'une des raisons de la désuétude de l'usage. Une règle finit inévitablement par se décomposer, puis par disparaître lorsque ses destinataires n'en connaissent plus le détail, la signification, ni la raison d'être.
Un jeune homme en société ne doit pas se précipiter au coup de la marquise en criant « J'ai faim, où donc elle pote et de la pain ?» Ne partirait ses souliers en réclamant un pain de pied, ni pincer la bonne en lui expliquant que ça fait circuler le sang.
Rissé Barrier sur Europe 1 avec le savoir-vivre. On y vient dans un court instant, s'il vous plaît. Merci, à tout de suite.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avec nous aujourd'hui sur Europe 1, Cécile Ernst, qui est agrégée de sciences économiques et sociales, auteur de Bonjour Madame, Merci Monsieur, l'urgence de savoir vivre ensemble chez Jean-Claude Lattès, et Frédéric Rouvillois, professeur de droit public à l'université Paris 5. Je rappelle le titre de son livre, Histoire de la politesse de 1789 à nos jours, disponible chez Flammarion, réédité en Champ Histoire.
Et moi je vais dire bonjour Madame, bonjour Monsieur, merci
bonjour.
Beaucoup d'être avec nous. Alors, vous avez jugé nécessaire, Cécile Ernst, de, comme on dit dans les médias, tirer la sonnette d'alarme. Vous avez eu une expérience personnelle qui vous a beaucoup alarmé en vérité.
Oui, en fait, j'ai quand même enseigné 7 ans en zone sensible et puis ensuite dans divers lycées.
Et quand vous dites zone sensible, les fameuses ZEP, c'est ça?
Voilà,
oui,
absolument. Mon constat est presque universel à l'école en France. Là où souvent on stigmatise les populations des zones sensibles, je dois dire que mon expérience, malheureusement, prouve que ça n'est pas l'apanage des populations dites les plus défavorisées. Donc, en réalité, quand vous êtes aujourd'hui dans un établissement scolaire, vous êtes confronté à des phénomènes que l'on qualifie globalement d'incivilité et qui sont extrêmement perturbants pour l'enseignement, d'abord, pour le vivre ensemble et pour les relations entre, finalement, tous les individus qui participent à cette collectivité, élèves, enseignants, administration.
C'est-à-dire qu'à force de ne plus respecter aucune sorte de règle et de ne tout simplement plus respecter les autres, on finit par créer un univers qui est très violent, en vérité.
Un univers très violent, qui rappelle tout à fait la loi de la jungle. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, quand vous regardez un petit peu comment se font les relations et qui donne le ton, vous vous rendez compte que ce sont les plus forts, ceux qui sont capables d'inspirer le plus de, entre guillemets, terreur, là je vais un peu fort, mais qui sont capables d'impressionner les autres, ce sont ceux-là qui font la loi et qui font leur loi, en s'affranchissant quand même avec beaucoup de désinvolture des règles qu'ils ont pourtant signées dans les règlements intérieurs, par exemple avec leurs parents. Et on s'aperçoit surtout que beaucoup de comportements qui nous paraissent, qui moi me paraissaient jusque-là implicites et allés de soi, ne vont plus du tout de soi.
Alors, tout ça vous a amené à vous pencher sur le phénomène de la politesse. Comment était-elle née? D'où vient-elle? De quand peut-on dater les principales règles de conduite en société, etc. Vous vous êtes rendu compte que tout ça remonte en fait extrêmement haut. Alors, l'ouvrage de Frédéric Rouvillois, lui, ne s'intéresse que à tout ce qui s'est passé depuis la Révolution. C'est un peu un paradoxe, Frédéric Rouvillois, puisque la grande époque de la politesse, si je puis dire, c'est l'Ancien Régime. Ce sont les règnes de Louis XIV, de Louis XV.
Alors, c'est un peu un paradoxe, effectivement, mais c'est un paradoxe un petit peu indispensable, parce que si on n'établit pas une césure, et celle de la Révolution est absolument évidente, il faut remonter effectivement pratiquement jusqu'à Adam et Ève, dans la mesure où, au fond, la politesse, c'est un peu comme le droit ou le langage, c'est un phénomène qui est consubstantiel de tout rapport social, hein, de tout lien entre individus. Dès lors qu'on a commencé à avoir des rapports avec autrui, eh bien on invente des codes, on invente les moyens de rendre ces rapports plus fluides.
À l'époque où j'étudiais les phénomènes de cour, j'avais découvert que c'était à mesure que les femmes avaient pris du pouvoir et que les maisons des princesses et des reines s'étaient développées, qu'il y avait donc eu des dames et des demoiselles d'honneur, que la politesse peu à peu s'était imposée à la cour, et je pense notamment au cours de Charles VIII et de Louis XII avec l'arrivée d'Anne de Bretagne. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que ça vous paraît convenable comme approche, Cécile Ernst?
Alors écoutez, pourquoi pas. Honnêtement, vous savez, je ne suis pas historienne, donc j'ai plutôt une casquette sociologie, pardon. Ça n'est pas impossible. Je pense qu'effectivement, on peut attribuer cette transmission et ce développement des codes sociaux aux femmes largement, puisque de toute façon, dans notre société, cette éducation-là est largement dévolue aux femmes. Oui. Voilà, maintenant, je crois que c'est ce que j'ai essayé de montrer.
Après tout, tout ce qu'on appelle la courtoisie, hein, cette espèce de comportement qui, lui, est médiéval, a été imposé par les dames, à commencer peut-être par Aliénor d'Aquitaine. Donc il y a cette idée hein, que les femmes ont poli les mœurs, en quelque sorte. D'ailleurs, les traités de civilité, les tout premiers, ceux du 15-16e siècle, sont toujours dédiés à des dames, en vérité.
Oui, et en outre, comme vous le savez parfaitement, la plupart des traités de politesse depuis la Révolution française, et des innombrables traités de politesse, puisqu'on en compte presque 600 depuis l'époque de Joséphine, la plupart ont été rédigés par des femmes, moins par des messieurs qui se
faisaient passer pour des dames. Mais ce n'est pas le cas, je précise tout de suite, de la baronne Nadine de Rothschild, qui elle est bien une dame, évidemment.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Les Russes s'embrassent sur la bouche, les Français se serrent la main. Les Esquimaux peu farouches se frottent le nez d'un air câlin afin de varier ses caresses et ses petits signes d'amitié. Pourquoi pas se pincer les fesses ou souffler dans les trous de nez? Où finit la politesse? Où commence l'incorrection? c'est toujours un cas d'espèce. Une affaire de convention.
Fernandel sur Europe 1 avec politesse.
Une affaire de convention, mais une affaire aussi, et c'est ce que vous nous montrez, Cécile Ernst, de vivre ensemble, en quelque sorte. Alors, les règles de la politesse, nous l'avons vu, ont beaucoup changé avec le temps. Les usages varient, bien entendu, aussi d'un endroit à un autre, d'un continent à l'autre. Simplement, elles ont toujours de bonnes raisons, ces règles. Et elles sont toujours fondées sur des usages, c'est-à-dire, encore une fois, sur des façons de vivre ensemble. C'est tout l'humanisme, finalement. C'est tout ce courant de raffinement qui nous a conduit jusqu'à ce qu'on appelle la civilisation, n'est-ce pas ?
Oui. Alors, ce que j'ai personnellement essayé de montrer, c'est que la civilité, la politesse, les bonnes manières, etc., n'étaient pas que une sorte de décor qui permet le déploiement de la vie sociale.
C'est pas seulement un folklore, en fait.
Hein. Absolument. Ça n'est pas juste. Ça n'est pas simplement de l'ordre du décorum pour se faire plaisir. Et j'ai notamment essayé de montrer que finalement, il y avait un lien très fort entre civilité et démocratie. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours considérer que certains codes sont un peu discriminants socialement. Je prends souvent l'exemple du foie gras. Il paraît que le foie gras se mange avec la fourchette. Alors en tout cas,
oui, on ne doit pas utiliser
pratique.
Son couteau normalement.
Voilà. Disons, en plus, il y a un clivage nord-sud sur cette question, donc je ne peux pas vous dire quelle est la pratique exactement. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai quand même appris à manger le foie gras avec la fourchette. Mais simplement, finalement, manger le foie gras avec le couteau n'est pas une gêne pour autrui. En revanche, ne pas laisser sa place à une personne âgée dans l'autobus ou bien hurler dans son téléphone portable dans un wagon me semble relever d'un autre niveau de règles.
Bien sûr, là on est dans la civilité.
Voilà, exactement.
Mais même les bonnes manières ont leur raison d'être. Par exemple, je me rappelle que j'avais une amie, alors là je rentre dans mes très vieux souvenirs, mais qui mettait toujours les couteaux à gauche et les fourchettes à droite, sans se rendre compte tout simplement que, en tout cas pour l'immense majorité des gens, pour les droitiers, il est plus pratique d'avoir la fourchette à gauche, tout simplement. De la même façon, vous parlez du couteau avec le foie gras, c'est, je pense, tout simplement pour éviter les manœuvres un peu dangereuses et les morceaux de foie gras qui tombent un peu partout sur la table. Avec la fourchette, on le tient mieux. On ne coupe pas sa salade. Eh bien, c'est parce que la salade a été assez vite servie avec de la vinaigrette et que lorsque vous la coupez, vous avez tendance à arroser la voisine. Il y a toujours une raison comme ça, Frédéric Rouvillois. On peut dire que, au départ,
parce qu'en même temps, vous dépoétisez ce faisant le savoir-vivre qui est aussi, me semble-t-il, c'est l'une de ces innombrables raisons d'être et l'une des raisons pour lesquelles il faut effectivement s'y tenir. Il permet aussi de poétiser un petit peu l'existence, précisément avec des choses qui peuvent paraître un petit peu inutiles,
un peu gratuites,
voilà. Il y a un côté don dans le savoir-vivre, et voilà, il réenchante un petit peu souvent une existence qui peut paraître un petit peu terne.
Mais par exemple, il ne se fait pas, dit-on, de poser sa petite cuillère sur le rebord d'une tasse. Alors on se dit, mais pourquoi ça peut paraître ? Eh bien, la raison initialement, c'est que les premières porcelaine était si fragile que si vous le faisiez, vous risquiez tout simplement de casser la tasse. Bon. Alors on a perdu effectivement souvent la raison d'origine et l'usage, l'habitude a fini par devenir une sorte de seconde nature et quasiment de pratique poétique comme
tout
vous dites.
Fait.
Alors vous montrez très bien dans votre ouvrage sur cette histoire de la politesse depuis la Révolution jusqu'à nos jours qu'il y a eu des hauts et des bas, qu'il y a des vagues en quelque sorte. Et pour prendre le 19e siècle qui peut-être est le grand siècle de la politesse, il y a eu des moments où la politesse est maltraitée au 19e siècle.
Elle l'est en particulier au tout début du 19e siècle, parce qu'effectivement, on est là dans la queue de la Révolution française, qui a été, on en parlait tout à l'heure, la Révolution a en fait cassé complètement l'ancienne politesse, l'ancienne civilité aristocratique, et a tenté de le remplacer par autre chose, sauf qu'elle l'a remplacé par rien. Et c'est heureusement Bonaparte, premier consul, qui est arrivé à ce moment-là, et qui, grâce à Madame de Genlis et à Joséphine, a remis les choses en ordre.
Alors Bonaparte était lui-même, dit-on, très mal élevé, mais il avait un ministre des Relations extérieures qui lui était une sorte de modèle de, comment pourrait-on dire, il était quasiment l'étalon de la politesse, c'était Talleyrand. Nous allons voir justement jusqu'où Monsieur Talleyrand poussait les bonnes manières.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck sur Europe 1 consacré maintenant aux bonnes manières de Monsieur Talleyrand.
Alors, les éditions Auray, depuis quelques années, publient une petite collection tout à fait charmante qui s'appelle En Verve, où l'on nous présente des citations et des anecdotes relatives à quelques-uns des plus grands personnages de notre histoire. Et il y en a un que je chéris tout particulièrement, c'est le volume, si l'on peut appeler ça volume, ce sont de petits opuscules, consacré à Monsieur de Talleyrand. Évidemment. Vous allez voir, Frédéric Rouvillois, mais je ne vous apprends rien puisque vous-même le citez abondamment, que Talleyrand avait fait lui-même l'histoire de la politesse et que ça le passionnait beaucoup. C'est au moment où Louis XIV réunissait dans les voyages de Fontainebleau, dans les fêtes de Marly et de Versailles, ce que la France remarquait à la cour, écrit-il, avec un orgueil national de noms illustres par la naissance, par la gloire des armes, des arts, du goût et des arts du gouvernement, par l'éclat de la beauté et par le charme des grâces. C'est donc à cette époque que tant de personnes, heureuses et glorieuses d'être appelées par le monarque aux solennités de ses plaisirs, y portèrent ou y prirent des manières qu'on appela belles. Ce fut un progrès, affirme Talleyrand, car la France en parut elle-même plus belle. Des manières devinrent l'objet d'une ambition générale, mais quand on les manquait, et ça c'est assez amusant, quand on les manquait, on avait beau être de la cour, on était ridicule. Et on était plus ridicule encore quand on les saisissait parfaitement, mais si l'on n'était pas alors de la cour. C'est assez subtil ce que nous dit Talleyrand, mais c'est assez juste. C'est-à-dire que ce corpus extraordinaire de bonnes manières poussé à leur comble dans cette cour versaillaise ne devait surtout pas être singé sous peine d'un ridicule quasi mortel. Cette abondance de ridicule, ajoute Talleyrand, devint une des riches moissons du pinceau de Molière. Les belles manières disparurent du monde avant Louis XIV qui les avait fait naître, et les ridicules dont elles avaient été non la cause mais l'occasion sont restés seuls immortels dans les chefs-d'œuvre de notre scène comique. Après cette efflorescence de bonne manière à la cour de Louis XIV et notamment lors des séjours de Marly qui, vous le savez, réunissait un nombre très limité d'invités triés sur le volet, ce fut, nous dit Talleyrand, l'ère du bon ton. Le bon ton n'a eu, il s'en faut bien, ni une naissance dont il ait pu tant s'éblouir, ni une décadence dont il ait eu dont il est dû tant rougir. Ses intentions, et on peut en prêter un mot, étaient moins orgueilleuses et meilleures. Il ne s'affichait pas comme beau, mais comme bon. Ce fut quelque temps après ce bon régent, qui gâta tout en France, qu'on se mit à beaucoup parler du bon ton. Les soupers du palais royal avaient pu égayer et même éclairer quelquefois la nation, malgré le scandale de tant de rameaux d'or échangés contre des feuilles de chêne, de tant de fortunes faites et défaites si rapidement. Mais les plaisanteries ne sont pas le meilleur des tons au milieu des calamités publiques, et on voulut en avoir un meilleur. Il se forma comme une ligue avec des conventions tacites et par conséquent vagues entre quelques hommes de la jeune cour de Louis XV et quelques autres de la vieille cour du cardinal Fleury, quelques philosophes qui comparaient Malebranche et Locke, quelques écrivains qui adoraient les vers de Racine et créaient dans notre littérature une nouvelle prose. Je trouve ces lignes de Talleyrand d'une pertinence, d'une justesse assez extraordinaire. Je poursuis ma lecture de Talleyrand. On ne pardonna point à leur ton de se donner pour le seul qu'il convint de prendre. Eux-mêmes étaient toujours au moment de se diviser, parce qu'entre tous ces tons fondus ensemble, pour en former un qui fût excellent, chacun voulut qu'il y en eût un qui domina et que ce fût le sien. La ligue fut alors rompue, et ce qui s'en est le mieux conservé dans la mémoire des curieux, c'est un vers dans le ton de Pope, mais non dans son génie. Le bon ton fut toujours l'ennemi du bon sens. Et là, Talleyrand n'est plus d'accord, car il nous montre que c'est exactement l'inverse en vérité. Le bon maintien dura davantage, dit-il. Il a pris tous ses principes dans la nature. Il n'est ni de fantaisie, ni de prétention, ni de convention. Certaines attitudes du corps naissent nécessairement de certaines attitudes en quelque sorte de l'âme. Elles en sont l'expression. Comme le langage d'action, comme la parole, le maintien est une langue. Et c'est peu dire que cette langue, M. Talleyrand la connaissait sur le bout des doigts. Il avait lui-même ce bon maintien qui permet à peu près quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse et quelle que soit la circonstance, d'échapper non seulement au ridicule, mais assez souvent à un certain nombre de scandales.
Alors on sait que Talleyrand avait pour coutume, dans une époque qui devenait grossière, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu un brassage social colossal avec cette révolution, et que notamment sur les champs de bataille, un certain nombre de personnes d'origine très modeste et qui ne possédaient pas les usages du monde ont été amenées à prendre non seulement du galon mais des titres. La création de l'Empire pour cela a été tout à fait symptomatique. C'était extraordinaire de voir à quel point du jour au lendemain on a créé des princes, des ducs, etc. C'était des princesses et des duchesses qui parfois avaient un peu du mal et se prenaient les pieds dans leur traîne, bien entendu. Et Talleyrand corrigeait, n'est-ce pas ? Invité à dîner chez Talleyrand, nous dit l'un de ses biographes, le général d'Orsène se fit attendre assez longtemps. On était à table depuis quelques minutes quand enfin il arriva. « Pardon, général, lui dit le prince de Bénévent, donc Talleyrand, mais ces dames avaient grand faim. Vous savez que les dames n'attendent jamais. » Ça, c'est une façon assez dure de lui faire remarquer qu'on s'est mis à table sans l'attendre. « Ah, monseigneur, dit le général un peu confus de cette facile urbanité, excusez-moi, j'ai eu beaucoup d'affaires toute la matinée et encore tout à l'heure, au moment où j'allais monter en voiture pour me rendre chez votre Altesse, j'ai été importuné par un maudit Pékin qui m'a retenu plus d'un quart d'heure. » « Général, reprit le prince, oserais-je vous demander pour mon instruction particulière ce que c'est qu'un Pékin ?»« Oh mon Dieu, monseigneur, vous avez fait attention, c'est un dicton de camp. Nous avons l'habitude d'appeler Pékin tout ce qui n'est pas militaire. »« Comment donc, mais c'est très bien cela, dit Talleyrand, vous appelez Pékin tout ce qui n'est pas militaire ?»« Eh bien c'est comme nous, nous appelons militaire tout ce qui n'est pas civil. » Il fallait être Talleyrand pour se permettre comme ça d'en remontrer aux autres, Frédéric Rouvillois.
Oui, et puis cette espèce de tempête d'esprit et de... C'est quelque chose qui est... Non seulement, effectivement, vous l'avez bien noté, il y a une espèce de science extrêmement subtile de toutes ces choses-là, une vraie science de la société, enfin, et en même temps cette espèce de nostalgie qui sourd toujours chez Talleyrand, et on se remémore toujours sa fameuse phrase sur qui n'a pas vécu avant la révolution n'a pas connu la douceur de vivre, mais en outre voilà, c'est le français dans toute sa splendeur, et c'est merveilleux de vous entendre le dire.
Finalement, on est toujours le nostalgique d'une époque où, semble-t-il, ou paraît-il, on était plus poli qu'aujourd'hui.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Bonjour, bonjour, bonjour. Quand on arrive, on dit bonjour, bonjour, bonjour. On est de retour, alors bonjour, bonjour, bonjour. Coucou, hello, salut, bonjour. Bonjour, on est de
retour. Millimum sur Europe 1 avec bonjour, bonjour, bonjour. La politesse fait réagir nos auditeurs.
Oui, oui. Alors c'est par exemple, je ne peux pas tout citer, mais c'est Brigitte qui nous dit qu'elle est horripilée par la façon dont on s'habille maintenant au spectacle et notamment au concert ou à l'opéra. Les gens ne sont plus habillés du tout, dit-elle, et le comble c'est que dès le rideau tombé, ils s'enfuient sans même applaudir les comédiens. On se rend compte que là encore, il y a la convergence, Cécile Ernst, entre une pratique, c'est-à-dire qu'autrefois on s'habillait pour sortir, bon, on le fait beaucoup moins maintenant, donc là il peut y avoir une nostalgie, c'est un peu de l'ordre de cette poésie dont parlait tout à l'heure Frédéric Rouvillois, et puis tout simplement un respect de l'autre, parce qu'alors s'habiller est une chose, ne plus applaudir, ça c'en est une autre, c'est terrible pour les acteurs ou pour les comédiens, ces salles qui s'en vont avant même d'applaudir.
Oui, alors honnêtement, je sors quand même pas énormément. En fait, tout de même, je me rappelle pas avoir vu un public partir sans applaudir. Mais bon.
Ah ben moi, j'en ai vu, j'en vois tous les jours. Ça s'appelle un public parisien.
Eh bien, écoutez, alors c'est moi qui ne sais pas observer.
Non, mais une partie de la salle applaudit, mais vous avez toujours un bon quart de la salle qui se sauve sans doute pour aller rattraper sa voiture. Enfin, je trouve ça assez terrible.
Oui, peut-être. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que, par exemple, typiquement, ce qu'évoque votre auditrice, le fait de s'habiller pour sortir, pour aller au spectacle, au concert. C'est une pratique qui, effectivement, aujourd'hui est totalement tombée en désuétude, sauf éventuellement pour les premières, mais et encore. Alors, je crois que ça, c'est très lié, au fond, à un dépoussiérage extrêmement virulent des codes sociaux qu'on a vu à l'œuvre depuis une cinquantaine d'années.
Mmh. Et qui depuis mai 68, en gros, disons-le.
Alors, disons que c'est facile de dater ça de mai 68, je pense que ça vient de plus loin. Oui. Mais disons que ça participe à ces mouvements des années 60, d'émancipation de l'individu par rapport à la contrainte sociale. Et c'est clair que les bonnes manières, dans ce sens-là, sont quand même assimilés à une contrainte et à un contrôle de la société sur soi-même que peu d'individus sont enclins aujourd'hui à accepter. C'est-à-dire qu'au fond, c'est ma liberté avant celle des autres et on ne supporte plus, non seulement qu'on vous impose des règles, mais on ne supporte plus non plus le jugement social qui va avec ces règles. C'est-à-dire le fait que ce soit un étalon pour vous évaluer en tant que personne dans un environnement social.
Alors vous avez, Frédéric Rouvillois, littéralement épluché tous les manuels de convenance et de savoir-vivre, etc. Et vous nous montrez que dans les années 1970, justement, alors je ne sais pas si c'est à cause de mai 68, mais en tout cas c'est après mai 68, on se met, et ce sont les auteurs mêmes de ces manuels qui vont à l'encontre des anciennes règles. Hein, c'est assez étonnant.
Bah, si vous voulez, les manuels de savoir-vivre se contentent en définitive d'enregistrer l'air du temps. Hein. Ils le faisaient à l'époque de Joséphine, ils le faisaient sous Louis-Philippe, ils le font naturellement après mai 68 et à l'époque de tous ces bouleversements effectivement culturels, sociaux que connaît la France et l'Occident à ce moment-là. Donc il est clair qu'ils enregistrent un état de, on va dire, de quasiment d'aplasie, si j'ose dire, hein, du savoir-vivre que mai 68 n'a pas créé, mais dont mai 68 est effectivement un petit peu le symbole et l'apogée en quelque sorte. Hein.
Alors nous avons vu que M. Talleyrand a été au tout début du 19e siècle en quelque sorte le survivancier, celui qui voulait faire, qui voulait continuer à faire vivre les mœurs de l'ancien régime. Mais, nous dites-vous, avec l'accès de la bourgeoisie au pouvoir, les codes se sont rigidifiés et la politesse est devenue une règle, sinon militaire, du moins contraignante.
Je crois que c'est un peu effectivement l'un des paradoxes de l'histoire de la politesse, c'est que, au fond, elle est plus contraignante après la Révolution qu'avant. Avant la Révolution, il y a cette dimension finalement très, il y a une très grande sophistication, mais il y a aussi une espèce de pluralisme, on va dire, de la politesse, du savoir-vivre ou des savoir-vivre. Il y a une coexistence de plusieurs savoir-vivre au même endroit et au même moment. Après la, donc un savoir-vivre qui est aristocratique, un savoir-vivre qui est coutumier. Après la Révolution, comme pour le droit d'ailleurs, hein, on a un phénomène de codification. Au sens le plus dur du terme, en l'an 13, donc alors que Napoléon donc vient d'être couronné empereur en 1805, on publie une étiquette du palais impérial qui va donner le ton ensuite, on va dire, à la politesse de l'ensemble de la société. Et cette étiquette du palais impérial, elle est tout à fait rigide, elle est codifiée dans un manuel qui fait plusieurs centaines de pages. Des choses qui n'existaient absolument pas, qui étaient même inconcevables sous l'Ancien Régime.
Avant, autrefois, il ne fallait surtout pas formaliser les choses. Elles étaient coutumières et au contraire, il fallait pouvoir les acquérir sans avoir à les lire. Alors que grâce à tous ces manuels, n'importe qui, si je puis dire, et c'est ce qui va se passer évidemment avec la monarchie de Juillet, plus encore avec le Second Empire, avec beaucoup d'ascensions sociales, n'importe qui peut accéder aux bonnes manières, en quelque sorte.
C'est ça,
il y a quelque chose de très démocratique là-dedans.
Oui, enfin en tout cas de bourgeois démocratiques, je ne sais pas. Mais effectivement, et ce qui est clair, c'est qu'il y a à la fois une rigidification, une complexification au cours du 19e siècle, hein, qui aboutit parfois à des excès invraisemblables, par exemple sur la façon de mettre les gants, qui devient une espèce d'obsession à certains moments, invraisemblable. On ne fait plus rien sans gants.
Une surcodification.
Y compris manger à table. Et effectivement, parallèlement, un développement quantitatif, une diffusion de ces codes de la politesse de la haute société, on va dire, jusque dans la très petite bourgeoisie et même dans les marges du prolétariat, grâce à ces fameux manuels de politesse que tout le monde lit et qui se vendent pour quelques sous absolument n'importe où.
Et bientôt, ce sera à l'école qu'on va apprendre, alors non pas les règles du savoir-vivre, mais en tout cas celles de la politesse et de la civilité. On peut dire que cette école de la Troisième République a été un véritable creuset pour la politesse. Cécile Ernst.
Oui, en fait, on se rend compte quand on étudie un petit peu les débuts de l'école de la République, qu'évidemment, elle n'a pas pour objectif de distribuer des diplômes et de permettre ainsi l'accès à l'emploi, contrairement à la vision que nous avons de l'école aujourd'hui, mais qu'elle a une vocation profondément démocratique et citoyenne. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de diffuser la culture au sein de toute la population française et jusque dans les coins les plus reculés de France, avec l'idée que finalement la citoyenneté repose sur deux piliers. Et là, on retrouve finalement totalement la civilité, c'est-à-dire que pour mettre une réalité derrière des termes, comme les termes de citoyen par exemple, nos hommes de la Troisième République sont allés chercher la civilité issue de l'humanisme de la Renaissance, avec ces deux piliers, culture de l'esprit, par l'instruction, etc., et culture des manières. C'est-à-dire qu'il y a un enseignement de la morale à l'école de la Troisième République qui dure une heure par jour, qui est l'objet de tout, non pas d'un programme, mais qui est l'objet d'une transmission de codes de conduite. C'est la science du comportement, d'une certaine manière, pour toute personne étant un citoyen. Et il y a cette volonté de faire advenir le citoyen avec l'idée qu'on ne naît pas citoyen, on le devient. Donc ça nécessite une éducation. Et donc, on est allé chercher la civilité pour s'appuyer sur quelque chose, mais on est allé chercher la civilité, non pas la politesse ancien régime. Parce qu'au fond, on a l'idée qu'il s'agit de vertus très importantes pour porter la démocratie au quotidien. C'est-à-dire que c'est par notre attitude quotidienne que nous portons la règle de droit, qui est la limitation du pouvoir du plus fort dans l'espace public et dans les relations sociales. Donc ça, c'est très fort. En revanche, on ne cherche pas à transmettre les fioritures de langage, de manière, etc., qu'avait connu la fin de l'ancien régime. Donc ça, je crois que c'est très important à comprendre. Ce qui, inversement, permet d'expliquer pourquoi l'on parle d'incivilité et non pas de non-politesse ou de manque de savoir-vivre. Oui. C'est-à-dire que l'incivilité s'entend par rapport à la définition de la civilité qui, elle, dans le dictionnaire, est bonne manière à l'égard d'autrui. Alors que le savoir-vivre, si vous prenez le petit littré, c'est connaissance et pratique des usages du monde. Oui, donc ça n'est pas du tout la même chose.
C'est assez différent, bien entendu.
Voilà. Donc je crois qu'il y a eu cette volonté-là. Et ce qui est certain, c'est que cette volonté, nous l'avons perdue depuis une cinquantaine d'années, sans nous rendre compte que finalement, ce n'était pas forcément le savoir-vivre qui était important à transmettre, mais la civilité, qui est vraiment le socle de nos sociétés démocratiques.
Bonjour madame, merci monsieur. Sous-titré « L'urgence de savoir vivre ensemble », c'est édité par Jean-Claude Lattès. Et donc c'est un ouvrage de Cécile Ernst à mettre entre toutes les mains. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Dans un instant, nous parlons de l'usage du tabac, nous parlons de toutes sortes de codes, du baise-main par exemple. Et puis je vous révélerai même, grâce à un de nos auditeurs, la raison finale pour laquelle on cornait les cartes, figurez-vous, quand on rendait visite.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Veuillez agréer, madame, l'expression de mes salutations distinguées. Je suis poli quand je vous écris, j'en ferai des polycopies. Je suis poli, jamais je ne mens, je vous le dis très poliment. Je suis poli sous couleur comme, je ne suis pas très polygrande. Je suis poli pour synthétique, mais aussi poli acrylique.
Laurent Lune sur Europe 1 avec ma politesse, extrait de son album La Belle Affaire, sorti cette année, Franck.
Alors évidemment, la civilité est une chose, la politesse en est une autre, et les bonnes manières, encore une troisième, ce sont elles qui sont en quelque sorte souvent les plus amusantes, disons-le. Il faut que, en quelque sorte, pour donner envie aux gens d'être polis, il faut peut-être que la politesse est un peu, soit nimbée comme ça, d'une sorte de mystère, Frédéric Rouvillois.
Vous savez que une de nos contemporaines, Geneviève d'Angenstein, vient de publier un petit livre, je crois chez Librio, qui s'appelle La politesse est un jeu.
Oui, voilà.
Et effectivement, voilà, il y a une dimension poétique et ludique dans le savoir-vivre qui serait peut-être effectivement l'un des moyens de la remettre un petit peu à l'honneur. Il y a eu d'ailleurs des jeux télévisés il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur des grandes chaînes de télévision qui une sorte de test. Enfin, c'était assez amusant de voir qui sait quoi sur la question.
Alors, il y a un certain nombre de pratiques qui ont évolué avec le temps. Je parlais de celle de fumer. Aujourd'hui, quelqu'un qui se mettrait à fumer, alors non seulement c'est interdit par la loi, parce qu'en plus, il se trouve que depuis quelque temps, la loi vient se mêler de toutes ces questions-là.
Hélas.
Mais, mais en même temps, c'est peut-être un signe des temps. C'est peut-être qu'il faut que la loi s'en mêle, parce que sinon, les gens ne sont plus capables par eux-mêmes de s'auto-discipliner. Mais ce qui est assez terrible, c'est que autrefois, la cigarette ou le cigare ont eu un sens très très différent, bien entendu. On peut dire que c'est une affaire de mœurs et de vogue.
Oui, il y a une histoire. Enfin, dans l'histoire de la politesse, il y a une espèce de sous-histoire, effectivement, qui est l'histoire du tabac, qui à elle seule est absolument fascinante depuis l'époque de Balzac. Par exemple, Balzac était un tabacophobe frénétique, et il voulait que on interdise le tabac dehors.
Il faut dire que souvent on prisait et on chiquait en plus à son époque, alors c'était plutôt ragoûtant.
Mais en l'occurrence c'était le fait de fumer. Parce que a priori quand on chique et quand on prise, ça gêne pas tellement autrui en définitive. Et c'est donc ce qu'on appelle appelait le tabac chaud par rapport au tabac froid, qui posait un problème. Il estimait que voilà, ceux qui fument dans la rue non seulement embêtent les autres, mais en plus font exprès d'embêter les autres. Il avait un côté un petit peu paranoïaque. Et voilà, il voulait qu'on supprime tout ça. Sauf que naturellement, il n'est pas parvenu. Le tabac a connu une expansion effectivement faramineuse, notamment au tournant du XXe siècle, où les femmes se mettent de plus en plus à fumer, contrairement à ce qu'on peut croire.
On a encore plus tard, après la guerre, on a les images de ces émissions de télévision où tout le monde fume.
Et par exemple, ce qui est assez amusant, on revient au manuel de savoir-vivre. Dans les manuels de savoir-vivre de la fin des années 50-60, par exemple, on conseille aux bonnes ménagères, lorsqu'elles invitent des gens à table, de disposer non seulement des cendriers à table, mais également des coffrets avec des cigarettes pour que, pendant le repas, les convives puissent se livrer à leur passe-temps favori.
Oui, ça paraît complètement fou. Alors, on va passer sur le baise-main. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage. C'est très amusant ce que vous racontez sur le baise-main. Et notamment, vous nous révélez que le baise-main est une invention récente. Hein. Ça n'est pas du tout issu de la nuit des temps. C'est le tournant du XXe siècle, en fait.
Une importation récente, vraisemblablement venue de l'Est, de la Pologne ou de la Prusse, mais qui n'existe absolument pas du tout en France au XVIIIe ou XIXe siècle.
Et alors, plus quotidien pour la plupart de nos auditeurs, le vouvoiement, ça c'est une grande question à une époque où on se met à tutoyer très facilement. Là, depuis 5-6 ans, tout le monde se tutoie à tour de bras. Pendant très longtemps, on se vouvoyait ou vous soyez.
Tout à fait. Alors, là aussi, autre histoire longue, hein, parce que le vouvoiement donc remonte en France pratiquement au Moyen Âge, et il connaît un temps d'arrêt strict au moment de la Révolution, parce qu'on considère que vouvoyer autrui, c'est au fond manifester une inégalité entre les hommes, une hiérarchie, par conséquent une hostilité au principe de la liberté, l'égalité et de la fraternité. Et depuis, effectivement, on a des hauts et des bas. Aujourd'hui, il semble qu'on soit plutôt effectivement dans un bas, mais là encore, tout peut revenir et peut-être que demain, on se remettra à vouvoyer comme on le faisait autrefois.
Il y a énormément de ces pratiques que vous disséquez littéralement et que vous nous montrez dans leurs évolutions, dans leurs modifications au cours des âges, à travers notamment ces manuels, évidemment, qui apprennent les usages et qui nous permettent, qui sont comme des miroirs de ce qu'était la société, de ce qu'aurait dû être,
oui,
en quelque sorte, une société idéale.
Hein. Si vous voulez, les manuels de savoir-vivre sont le miroir de ce qu'elle aurait dû être,
voilà,
et les romans sont le miroir de ce qu'elle était.
Alors, chose promise, chose due, les cartes cornées, vous savez, les gens se font des nœuds au cerveau, nous dit Jean-Pierre. Pour moi, il a toujours été évident que la corne était simplement faite pour faciliter la saisie de la carte entre le pouce et l'index. Avez-vous déjà essayé d'attraper une carte de visite sur le dessus en marbre lissé d'une console d'entrée? Oui, c'est vrai qu'après tout, ça pourrait être tout simplement l'explication. Frédéric Rouvillois, Histoire de la politesse de 1789 à nos jours. C'est chez Flammarion, c'est réédité en chant histoire. Et puis, je vous signale que ce soir, dans les jardins de la pagode, aura lieu toute une soirée organisée par Jean de la Motte Rouge. Alors, on sera vraiment dans la politesse et dans le beau temps d'avant, si j'ose dire, hein, dans ces jardins du XVIIIe siècle et dans l'esprit de Marie-Antoinette, notamment avec une conférence d'Elisabeth de Feydeau. Il y aura des chants, il y aura du clavecin, et tout ça, et rue de Babylone, donc dans les jardins de la pagode. Et c'est ce soir même à 20h.